Bonjour, bonsoir, vous écoutez Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Voix de Fait, c'est l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Ce soir, vous êtes en compagnie de Nicolas.
Jeannie.
Et Farouko qui vous dit peut-être après-midi aussi.
Bon, ouais, effectivement, peut-être cet après-midi, parce que nous sommes diffusés le mercredi à 20h et le jeudi à...
14h.
14h.
Yeah, yeah, yeah.
Alors, cette semaine, à Voix de Fait... Mon Dieu Seigneur. Ben, d'abord, il y a le rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui est tombé aujourd'hui. Ça va pas bien à Québec. On va en parler un petit peu.
C'est la faute des loyers trop bas qu'ils disent.
C'est la faute des loyers trop bas, oui. Évidemment.
Et voilà.
Et en fait, le Frapperie est sorti là-dessus. On va en parler. Il y a plusieurs retours de manifestations parce que bon, ça continue de rocker, même si on est à l'approche des fêtes. On a ramené des trucs à ce propos. Et il y a Jeannie aussi.
Moi, je vais vous parler du durcissement des demandes de Québécois par rapport face aux employés dans leur comté du Journal de Montréal. Puis aussi très brièvement d'une asso qui a réussi à se désaffilier de la FUC.
Et évidemment, on ne pourra pas passer à côté du patron Saint-Vincent-de-Paul, de la volte-face du maire. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais là, il y a des esquisses qui sont sorties. C'est de toute beauté. On va regarder ça.
C'est dégueulasse.
Je suis ému.
On va regarder ça rapidement. Et ici, on a le temps. Ben, évidemment, il y a des plugs et des nouvelles internationales.
Ouais, donc cette semaine, on dédicace l'émission à...
Silvio Berlusconi.
Ah oui! Merci, Berlusconi, d'être aussi accessible à la population.
Oui, effectivement. Ben, au moins, les Italiens, eux autres, c'est leur chef d'État qui mange la claque et non pas le chef d'État qui étrangle des manifestants.
Ah, c'est ça.
Comme ça s'était passé.
Jean Chrétien était un dur à cuire.
Oui, Jean Chrétien était un dur à cuire. Berlusconi, en plus, c'est pas la première fois
non,
que ça y arrive.
Il apprend pas de ses erreurs.
La dernière fois, il s'est fait pitcher un pied d'appareil photo qui a ouvert le crâne.
Oui, mais c'est peut-être pour ça toutes les chirurgies qu'il y a, d'esthétique, les lifting, puis tout.
Oh
là.
Mon Dieu.
C'est un vrai pourboi. Bon, on va commencer ça en musique à la place.
Oui.
Ouais, avec une pièce, une vieille pièce de banlieue rouge dédicacée aux grands fans de Lady Gaga et compagnie, Star System sur CKIA 88.3.
Adolescence soumise.
c'était Safouane sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Safouane qui c'est quand même pas aussi pire que Renault, mais
c'est dans le Star System aujourd'hui.
Safouane étant le chanteur des défunts Banlieue Rouge. Donc toujours à voix de fait, dans un premier bloc tout d'abord d'actualité militante, mettons, sociale, politique. On en a un petit peu entendu parler à Québec, mais pas tant que ça, en fait. Il y a la Flamme olympique qui est à Montréal la semaine dernière, le 10 décembre, en fait. Oui, c'était le 10 décembre. Il y a une manifestation qui a accueilli le passage de la Flamme olympique à Montréal, et cette fois, les manifestants ont réellement réussi à perturber le passage de la Flamme, selon ce qu'on nous a dit, selon ce qu'on pouvait voir. En fait, Radio-Canada dit que les célébrations qui devaient commencer vers 18h30 ont débuté aux alentours de 20h. Le spectacle qui devait durer 2 heures n'a duré qu'une demi-heure. La prestation de Grégory Charles ainsi que les feux d'artifice prévus ont été annulés.
Les feux d'artifice, les manifestants étaient dans les airs. Ils ne pouvaient pas tirer de feux d'artifice.
Ils étaient sur le podium.
Il était entre le ciel et les feux d'artifice.
Normalement, le dernier relayeur de la flamme aurait dû arriver à 19h30 pour allumer un vase communautaire, mais il a qui a été finalement allumé seulement aux alentours de 20h30.
C'est lui qui allumait les mèches, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de feu.
Je pense que oui. Enfin, bon, bref, tout ça, c'était, en fait, on dit... Dépendamment des sources, là, les organisateurs dans leur communiqué disent 200 manifestants, ils gardent ça safe, sauf qu'il y a plusieurs personnes qui disaient jusqu'à 300, et dans les médias, ça allait de quelques dizaines à presque 200. Enfin, bon, bref, il y a beaucoup de monde qui se sont mobilisés pour marquer le passage de la Flamme olympique à Montréal. C'est des activistes en solidarité avec les peuples autochtones et des groupes et des individus qui sont ralliés au chapitre montréalais de l'Action mondiale des peuples, qui est un mouvement anticapitaliste international qui, comme... tout le monde ne le sait pas, a été initié, en fait, suite aux rencontres intergalactiques des apatistes pour exporter la révolution
c'est
partout.
C'est pas intersidéral?
Non, c'est intergalactique.
Oh, désolé.
Des apatistes, l'armée des apatistes de libération nationale au Chiapas. Et donc voilà, ce groupe, très gros groupe de militants, a chahuté pendant plusieurs heures les activités qui étaient prévues au programme de célébration. Il y avait une présence policière très musclée. Ça a pris de l'anti-émeute, en fait, pour les déloger de là. Semble-t-il qu'il y a quand même eu un peu de brasse camarade. On parle de camarades qui ont reçu des coups de matraque et qui se sont fait bousculer. Mais ils ont réussi quand même à...
L'esprit olympique.
Oui, l'esprit olympique.
Il y a du sport.
Il y a du sport. De la lutte gréco-romaine. Normalement, c'est pas pendant les Jeux
Olympiques
d'hiver. Ouais, c'est ça. Et donc ça a eu lieu à Montréal. Ils ont vraiment réussi. C'est la première fois, en fait, que c'était réellement perturbé. Jusqu'à maintenant, c'était surtout des rassemblements qui étaient des actions de visibilité. Mais là, il y a eu vraiment une réelle perturbation. Et les thèmes étaient, les slogans étaient un peu les mêmes qu'à Québec. Pas de jeux sur des terres volées, flammes de la honte, des logements, pas des jeux. Il y a eu, mon Dieu, ça n'est pas des écolos, ça, des dizaines de milliers de confettis qui ont été lancés dans la foule où figurait le message « Pourquoi fêter la colonisation des terres autochtones, l'embourgeoisement et les subventions aux grosses compagnies? » Donc c'est ça. Ça se passait à Montréal. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit. Puis finalement, c'est la police qui a viré de là parce qu'ils voulaient pas s'en aller gentiment. Il y a eu... plusieurs manifestants qui, selon les organisateurs, ont été violemment poussés, frappés et insultés par les policiers. D'ailleurs, c'est corroboré par de nos amis montréalais qui étaient sur les lieux. Mais ils ont quand même continué de chanter, de scander pour perturber l'animation malgré le fait qu'ils se faisaient tasser. À un moment donné, la police a complètement encerclé les gens. Il y a même eu... Ah oui, ça, petite fait à noter. On en a parlé à quelques reprises du fait de l'origine de la flamme. D'où ça vient. Mais là, c'était vraiment clair parce que le film de propagande nazi, Olympia, de Leni Riefenstahl, a été projeté sur écran géant.
Pour vrai?
Oui!
Malade!
Pendant que les manifestants étaient gardés de force et brutalisés par la police.
C'était... Et là, t'as un film nazi qui passe.
Oui,
puis
mais
tout
personne
le monde
ne sait que c'est un film nazi, ça a l'air d'un film d'époque.
Ouais, mais tout le monde te parle de l'esprit ancestral des Olympiques, de la tradition millénaire.
Oui. Et donc, toujours est-il que finalement, au final, la police a encerclé tout le monde. Et d'un coup, qu'ils voulaient pas s'en aller, ils ont plus voulu les laisser s'en aller de peur qu'ils foutent le bordel. Alors, ils les ont laissés partir à coup de 4, je crois, pour éviter qu'il y ait des attroupements et d'autres choses. Donc,
les
gens restaient
longtemps.
Ça, j'en sais rien.
D'habitude, quand ils laissent aller à groupe de 4, ils leur enlèvent pancarte et bannière.
Je sais pas. Mais enfin, bon, bref, si vous voulez en savoir plus sur le mouvement de résistance aux Olympiques, vous pouvez aller à olympicresistance.net, donc ou AMP-Montréal.net ou no210.com ou dominionpaper.ca/Olympics. Donc, c'est les différents sites. En fait, vous pouvez aussi tout simplement aller dans Google et taper Olympic Resistance, ce genre de choses-là. C'est pas les seules choses qui se passent, évidemment. Il y a eu beaucoup d'autres activités qui se sont passées dans les derniers jours, pas juste sur la question des Olympiques, aussi sur la question de la pauvreté. Tiens, c'est un sujet connexe. Il semble qu'à Vancouver, il y ait beaucoup d'argent qui soit détourné des programmes sociaux et du logement social et qui est détourné vers les choses olympiques. Mais à Québec aussi, là, il y a eu des mobilisations sur la question de la pauvreté. On en a parlé dans les dernières semaines. Et puis, ben là, on revient avec un reportage. Hein, notre équipe de reporters était sur le terrain. On va commencer avec la douce voix de Marie-Ève Duchesne de Rose du Nord.
Voici le temps des consultations. Consultations plutôt bidons. Les personnes qui vivent la pauvreté sont pas sur la liste des invités. De toute façon, cette liste-là, elle est secrète, personne ne l'a. Qu'on veut, c'est un revenu décent, hein. Pour tout le monde, on veut le droit au logement. On veut des services publics universels de qualité. Ça, c'est un vrai plan de ta pauvreté. Wouhou! Qu'est-ce qu'Amad veut dans ce plan-là? La lutte à pauvreté locale. Il n'y aura pas de mesure nationale.
Donc voilà, il y avait une centaine de manifestants en fait qui étaient à Québec vendredi le 11 décembre pour la consultation régionale de Québec sur le deuxième plan de lutte à la pauvreté du ministre Sam Ahmad. Et c'est avec cette consultation-là que prenait fin la campagne de consultation gouvernementale qui a été menée cet automne dans 17 régions du Québec pour justement l'adoption là, du prochain plan d'action en matière de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale partout au Québec. Il y a plusieurs groupes communautaires qui se sont mobilisés pour faire entendre leurs propositions. À Québec, c'était donc c'est ça, entre 100 et 130 personnes qui ont répondu à l'appel de 7 regroupements régionaux. Puis bon, je ne vais pas faire semblant d'expliquer là, en long et en large pourquoi les gens étaient là. On a même un extrait sonore de Jonathan Carmichael du Bail qui explique tout ça.
Est-ce qu'on trouve ça normal? Ici, au Québec, à matin, il y a du monde qui sont retrouvés avec rien à manger dans le frigidaire. Est-ce que c'est normal?
Non!
Est-ce que c'est normal que le gouvernement maintienne dans la misère les personnes assistées sociales en leur versant un revenu indécent?
Non!
Est-ce que c'est normal qu'un travailleur ou une travailleuse au salaire minimum doit vivre en dessous du seuil de pauvreté?
Non!
Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait des mal logés au Québec?
Non!
Est-ce que vous trouvez ça normal que les services publics soient menacés?
Non!
Est-ce que vous trouvez ça normal que le gouvernement organise des consultations pour un plan de lutte à la pauvreté sans inviter les premières personnes concernées, celles qui vivent la pauvreté? Est-ce que c'est normal?
Non!
Fait que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est pour dénoncer ces consultations bidons-là.
Alors voilà, dans une conférence de presse bilan des consultations régionales là, donc qui se sont tenues dans 17 régions, il y avait le collectif pour un Québec sans pauvreté puis des organisations alliées comme le FRAPRU qui ont fait un bilan, bref. Et ce qui en ressort en fait, c'est que la lutte à la pauvreté passe d'abord et avant tout par des mesures nationales fortes. Il faut rehausser le revenu des personnes en situation de pauvreté, assurer des services publics universels de qualité. C'est le message en fait qui était porté par les acteurs impliqués et dans la lutte à la pauvreté sur le terrain et dans toutes les manifestations, c'est il n'y aura pas de plan de lutte à la pauvreté s'il n'y a pas plus d'argent dans les poches du monde, finalement. C'est aussi simple que ça. La tournée des régions aussi permet de constater qu'une diversité de solutions qui est proposée pour faire face à des particularités régionales. Il y a beaucoup de régions au Québec qui se sont opposées à l'approche territoriale intégrée qui est mise de l'avant par le gouvernement. En même temps, elles veulent lier étroitement la lutte à la pauvreté puis le développement régional. Les régions veulent agir, mais elles savent que leurs actions n'auront pas beaucoup d'effet si, à Québec, le gouvernement n'assume pas les responsabilités que lui confère la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans les champs qui lui reviennent. Ça, c'était Robin Couture qui disait ça. Et donc, pour terminer, les organisations communautaires soulignent que les revendications du mouvement social relèvent d'une vision large de la lutte à la pauvreté et de l'action gouvernementale requise. Il y a François Saillant du Frappru qui disait que c'est une question de droits humains, en fait. Le gouvernement du Québec a l'obligation d'assurer des conditions de vie décentes à l'ensemble des citoyens. Mais il faut savoir qu'il y a déjà des retombées là, de cette chose-là, de ces consultations-là. Par exemple, on vient d'annoncer la hausse du salaire minimum pour le 1er mai, qui va passer à 9,50. Ça prendrait 10 et 16 pour sortir les gens de la pauvreté, mais déjà 55.
Mais ça serait exagéré selon les économistes.
Ouais, mais on s'entend pas sur cette chose-là, c'est drôle, hein? Avec ouais. Les économistes, je veux dire.
Qu'est-ce que je m'entends jamais avec eux.
En fait, si on s'en... Ce qui est très, 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 très paradoxal, et il faut quand même le souligner, c'est que depuis que les libéraux sont au gouvernement à Québec, le salaire minimum a augmenté d'à peu près 30%. C'est une hausse très importante.
Il y a aussi une demi-indexation de l'assurance
De l'aide sociale. Maintenant, il y a une pleine indexation. C'est fini la demi-indexation.
Ouais, mais il y a quand même des catégorisations qu'il y a des demi ou pas d'indexation.
Ouais, non, maintenant, c'est toute pleine indexation. C'est juste que le choc est différent. Okay. Mais toujours est-il qu'il y a eu une hausse assez marquée du salaire minimum. On est passé de 7 $ à 9,50, c'est quand même pas rien. Et tout ça sous un méchant gouvernement libéral.
Ouais, les sociodémocrates péquistes n'ont jamais rien fait de ça.
Non, c'est ça, les sociodémocrates péquistes. Ben, les péquistes, en fait, ont toujours, c'est abusé que de parler de, surtout depuis que M. Bouchard est parti.
Depuis qu'il a fait le ménage.
Non, mais le dernier député péquiste social-démocrate est parti. Non, c'est pas vrai, Agnès Maltais pourrait encore prétendre à la qualification.
Lucien Bouchard, ça se donne.
Non, Camille okay. Bouchard.
OK.
Qui a démissionné cette semaine. Mais c'était la conscience de gauche du Parlement. Il vient de crisser le camp. Parce qu'il a dit qu'il y avait plus d'impact en tant que chercheur universitaire qu'en tant que député de l'opposition.
Et donc, comment?
Donc, toujours est-il que ce qui est très paradoxal, c'est qu'ils ont augmenté le salaire minimum de façon importante depuis leur élection. Et ça, pourquoi? Parce que justement, c'est pas des sociodémocrates. Ils ne le font pas pour aller chercher des votes, parce que de toute façon, il n'y a jamais personne qui va voter pour eux parce qu'ils augmentent le salaire minimum. Ils le font sur la base d'une politique industrielle et de leur credo économique. Et ce qui c'est particulier. Il n'y a personne qui est capable de dire pourquoi, mais... Il semble qu'il faut que le salaire minimum soit à 47% du salaire industriel moyen.
Parce 47?
Que, oui, 47. Parce que plus que 47, tu commences à perdre des jobs, puis moins que 47, les gens sont trop pauvres puis ils n'ont plus intérêt à travailler.
Oui, fait ouais, ben c'est comme les
économistes. En l'augmentant de 50 cents, il va être juste flush sur le 47% du salaire industriel moyen. Donc c'est un peu particulier, mais bon, mieux vaut sans doute ce genre de théorie là que pas de théorie du tout, puis d'augmenter le salaire minimum quand il y a assez de monde qui crie dans la rue, tu sais. Ceci dit, donc c'est une des choses qui ressort de ça. Il y a sûrement d'autres choses qui vont ressortir, qui vont probablement être moins jolies. On s'entend de la consultation et tout.
On est pauvre au Québec, ça a l'air.
Oui, on est incroyablement pauvre, on est pauvre et communiste, comme le disait Jean-Jacques Sanson.
Un communiste, Gilles Proulx aussi disait.
Non, mais cette semaine encore, il y avait une éditoriale dans le Journal de Québec qui disait que Claudette Carbonneau, qui revendiquait un nouveau palier d'imposition de l'impôt, était une communiste.
Ben oui, clairement.
Ça n'a pas de maudit bon sens.
Coche de plus, puis c'est Staline.
D'ailleurs, parlant de communistes, il y a des journalistes qui brasse la cage, toi. Il y a les locataires, en fait, du Journal de Montréal.
Des communistes.
Des communistes, comme tout le monde le sait. qui sont en locataire depuis 16... Non, depuis un an. Ils sont en locataire depuis un an et...
Ça fait 11 mois.
11 mois, bon, presque un an, qui ont en début de semaine, en fait, ils avaient une assemblée générale parce qu'ils essaient de relancer les négociations avec leur patron, et ils ont pas eu des bonnes nouvelles, ils étaient pas très contents des résultats, fait que après l'assemblée générale, ils ont décidé d'aller manifester devant l'imprimerie qui imprime le Journal de Montréal aujourd'hui. Ils ont retardé de 5 heures la distribution de l'édition quotidienne du journal. Ils sont restés là jusqu'à 3 heures du matin. Grosse manifestation de colère, et Janie a fini par comprendre, a fini par nous trouver pourquoi qu'il était pas content.
C'est que c'est la direction de Québécois, ils ont décidé de dire, ils ont annoncé un durcissement dans ses demandes. Le modèle d'affaires qu'ils proposent maintenant, c'est quelques 200 employés du bureau pour la rédaction. Ça comprend des mises à pied à la rédaction puis une utilisation accrue des services de l'agence QMI. Ça, cette agence-là, il y a bien des articles trouvés dans le Journal de Montréal qui sont signés de cette agence-là, justement, pour contourner le...
Ben, ouais, c'est
des scabs, hein. Dans le fond.
Des scabs qui ne sont plus maintenant également. Ouais, ils ont été déclarés scabs, là, ils sont plus, tu sais, avec ouais, à Québec.
C'est un peu fourrant.
C'est parce qu'ils ne travaillent pas sur ces lieux de travail du journal.
Oui, ils ne travaillent pas, ils travaillent pas au bureau.
Parce que c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Puis, c'est ça, c'est après, justement, que c'est que... Parce qu'au début, je pense que c'était juste des mises à pied dans, je sais pas dans quel secteur, il voulait juste...
Ben, il travaille beaucoup sur le normatif Pelado, il veut que le monde travaille 40 heures, 5 ouais. jours, ce qui découpe en, comme à Québec, d'à peu près 30% de leur salaire en faisant ça.
Ouais,
c'est quelque chose.
Il y a aussi toute une question au niveau... De l'organisation technique du journal. Ils veulent en mettre le plus possible en sous-traitance. Ils veulent entre autres centraliser tout ce qui est job de bureau, finalement.
Fait qu'au début, justement, du plan d'affaires, ben ça contenait pas des pertes d'emploi dans la rédaction, mais là, c'est rendu à ce niveau-là.
D'accord. Est-ce que c'est tout ce qu'on a à ce sujet?
Ouais, c'est pour en plus de détails.
J'en avais une autre que j'avais oubliée.
Oui, les expropriations.
Les expropriations. En fait, il y a le ministère des Transports qui a été exproprié à Montréal mardi, toi, le 15 décembre. C'est une cinquantaine de manifestants du Pas pire comité logement puis du Frappru.
Du Pas pire comité logement.
Ça s'appelle le Pas pire comité logement.
Malade.
Qui ont participé à l'expropriation de la ministre des Transports, Julie Boulet.
Ils l'ont sorti de son bureau.
En fait, ils ont sorti une fausse Julie Boulet de son bureau. Oh, quand même, ils ont pas été jusque-là. Mais en fait, le ministère des Transports avait reçu, dans les semaines précédentes, plus de 120 faux avis d'expropriation signés par autant d'individus et d'organismes solidaires des ménages qui sont ciblés par les expropriations dans le village des Tanneries à Saint-Henri. Donc, dans ces avis d'expropriation, on demandait à la ministre de prendre l'engagement qu'il n'y aurait pas d'expropriation dans le cadre de la reconstruction de l'échangeur Turco. Là, on a un extrait de l'expropriation en tant que telle.
Madame la ministre, je suis Derek, j'ai bien des entreprises policiers CRI et nous sommes ici aujourd'hui pour servir vous, madame, une mise en demeure pour sortir de votre vélo. Madame, vous êtes officiellement expropriée.
Oui, on peut sortir à vrai.
Je sais pas. Mais comme il n'y a aucun engagement qui a encore été pris pour éviter les expropriations, les vraies expropriations de locataires à l'échangeur de Turcot, on parle de 166 ménages de Saint-Henri qui sont menacés d'expropriation pour l'agrandissement de cet échangeur autoroutier-là. Donc, ils se sont pointés pour avec les déménageurs de Déménagement Pas Pire et un huissier de huissier Saint-Henri pour exproprier une fausse ministre devant les bureaux du ministère. Là, ils disent qu'ils vont aussi exproprier le premier ministre. Il y en a plusieurs autres là, sur leur liste. Les personnes présentes ont informé une représentante du MTQ que les actions s'intensifieraient si le ministère persistait là, dans sa volonté d'exproprier 166 ménages à Saint-Henri. Bon, évidemment, on n'était pas sur place. C'était un mardi de semaine. Et l'extrait sonore qu'on a tiré, en fait, c'est un extrait qu'on est allé chercher sur une vidéo qui est mise en lien sur le site du Pas pire Comité Logement. C'est qui?
Mais j'en ai
fait
une deuxième moitié.
Oui, t'en as une deuxième moitié, tu vas la mettre. Mais alors la journaliste qui a fait qui a été chercher le son, c'est Audrey Lavoie. Puis là, ben là, on va entendre Patricia Vianney, qui est la porte-parole du Pas pire comité logement, qui va expliquer un peu plus là, ce qu'il y en est.
Aujourd'hui pourquoi?
On est venu avec des gens de Saint-Henri parce qu'ils sont menacés d'expropriation pour la reconstruction de l'échangeur Turcot. Ils viennent dire à la ministre qu'ils ne veulent pas être expropriés.
Comment va le moral après tous ces mois de mobilisation?
Ben, le moral est pas mal bon parce que depuis la sortie du rapport du BAP, beaucoup d'experts, d'architectes, d'ingénieurs, l'arrondissement lui-même s'est opposé aux expropriations. Donc la communauté se sent quand même appuyée, mais elle voudrait avoir la confirmation du gouvernement qui procédera pas.
À quoi vous attendez du gouvernement?
Nous, on veut qu'il déclare qu'il va penser un nouveau projet où l'auto sera pas aussi importante, dans le sens qu'on ne fera pas rentrer plus de voitures à Montréal et du même coup, on évitera les expropriations.
Est-ce que vous êtes confiant?
Toujours, sinon on ne lutterait pas. C'est sûr qu'on a beaucoup progressé. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la confirmation qu'il n'y aura pas d'expropriation.
La police est venue exproprier aussi.
Ouais, mais en fait, c'est ça, c'était pas une manifestation. Je pense que c'est quelqu'un qui s'amusait avec le mégaphone. Donc, on vient d'entendre Patricia Vianney, qui est interviewée par Audrey Lavoie. C'est juste un extrait, c'est une vidéo qui est beaucoup plus long, puis je me suis dit que bon, ben, tant qu'à faire, on cite des articles de journaux, pourquoi pas citer des extraits vidéo. Puis on va terminer ce bloc, ce premier bloc de l'émission avec, un petit bon,
une bonne nouvelle, c'est l'AGEQTA, la Section Générale Étudiante Université du Québec à Trois-Rivières, qui se sont réussis à se débarrasser de la FEUC.
Ouais.
Il y a un référendum sur à savoir si les étudiants voulaient maintenir l'affiliation qui a été remporté par le nombre de proportion 60%, je me souviens bien. Donc, c'est 9300 membres que la FEUC a perdu, puis c'est au-dessus de 40 000 $ de cotisation qui sont perdus.
Et quelques 8 000 $ de bourse pour leurs exécutants.
Ouais.
Ah non.
Ça ne fait pas de peine.
C'est vrai, ils sont pas salariés, mais ils sont boursés à 20 000 par année, une affaire de même.
Je sais plus.
C'est vraiment énorme.
C'est
là.
Comme une libération syndicale, dans le fond.
Ah oh, oui. c'est pas le club école du PQ, ça.
Oui. La FEUC et la FEUC, là.
Oui, il y a plusieurs libérations syndicales qui sont aussi des clubs écoles du PQ.
Oui, oui.
sans vouloir... Il y a plusieurs députés qui ont passé par soit la FEC, la FERC, et même ensuite la CSN. Ouais. Là, Gérard Dangouin a tout fait. Il a fait la FECUM, la FERC, la CSN.
Rebello
aussi, qui a fait la FERC.
Suite PQ, jeunesse, président, puis là, il essaie d'être député.
Il est député? Ah, il est député, François Rebello.
Je sais pas, je l'aime tellement pas que j'évite sa face.
Oui. Bon, ceci dit, nous, il faut avoir le temps en file. On a un PPP.
Ah, oui.
C'est le retour des PPP.
C'est la résurrection des PPP.
François est revenu de Bolivie. Il nous sort un PPP qui nous montre... Mais en fait, on entend souvent parler du Doc Mayo, sauf que bon, la plupart des gens
on
comme toi et moi, il voit, ouais, on l'entend pas souvent parler.
Et voilà.
Et c'est quelque chose, mon ami.
C'est le fun.
Alors, ce que vous allez entendre là, ça a passé à la télé.
Yeah.
Voici la parole populaire.
L'hypothèse la plus plausible à l'heure actuelle avec tout ce qu'on a, c'est que ceci de l'autre chevelement, il a crié, il criait en tirant « Allah est grand ». Salut. Ben, la première hypothèse, c'est l'infiltration à nouveau dans l'armée américaine par un Mouktouk. C'est un Mouktouk, c'est un fanatique. C'est un individu qui est un musulman pratiquant, tout le monde le savait. Et Jean-Luc, ce qui m'offense, ce qui me met le feu derrière, c'est l'imbécilité humaine. Jean-Luc, comment peut-on croire sérieusement qu'un musulman pratiquant puisse devenir psychiatre et être aidant pour des Américains qui sont allés tirer sur des musulmans? Les forces canadiennes ont de la classe pour ce qui est maintenant de leur façon d'encadrer les militaires qui reviennent de théâtre d'opération, de mission dans des pays en guerre. Okay. Mon fils aîné est arrivé dimanche d'Afghanistan et d'avoir passé 6 mois afin d'essayer d'élever le niveau de ce pays taré. Écoute, Jean-Luc, on a des évidences criantes. Le matin, il est dans son habit de clown au dépanneur.
Il est dans son vêtement. Il est dans son vêtement religieux.
Je répète, il est dans son habit de clown. Ça marche pas, patente.
Mais comment il a réussi?
Humainement, ça marche pas parce que un pratiquant musulman est nécessairement un individu inférieur. Est-ce que tu sais, Jean-Luc, ce que ça veut dire, un Mouktouk qui est rasé?
Il se prépare probablement à une mission.
Il se prépare à aller au ciel, parce que pour rentrer au ciel, sur la terre, ils sont poilus, puis au ciel, il faut qu'ils se rasent. Pour aller au paradis des vierges, puis se mettre avec, je ne sais pas comment, de vierges.
Pierre, allez-y doucement, j'essaie de vous aider malgré vous, là.
j'ai pas besoin d'aide là-dessus. Je te le certifie. Alors, ces craintes-là, on les manifeste pas. On est un homme, on est un vrai. On vit en société, on pourra-tu avoir des moyens collectifs pour organiser cette société-là?
Oh, never hit your grandma with a shovel.
Vous écoutez Voix de Paix!
Hey, de retour sur les ondes. Ben, nous sommes de retour. Alors, il y a un truc qui essaye de faire l'actualité en ce moment, qui l'a fait plus ou moins, dans la mesure où c'est surtout le soleil qui mène le bal. Le patron de Jarreau, Jacques Robitaille, a sorti des esquisses, de nouvelles esquisses d'un hôtel sur le site du patron Saint-Vincent-de-Paul. C'est le projet en fait qui emballait le maire de Québec, qui disait que c'était pas mal beau.
Il s'était mouillé.
qui c'était pas mal beau. Et donc là, tout le monde est en train un peu de se demander qu'est-ce qu'il y en est. Et j'ai ressorti une réflexion intéressante de notre ami j'ai un blanc. C'est l'animateur du matin à CKRL.
Aïe, aïe, aïe.
Raymond Poirier. Oui. J'en ça doit être ça. Hein. En tout cas, il y a un blog sur Voir. Et c'est intéressant. Il a ressorti une réflexion sur tout ça, ce que ça lui inspirait. Il dit, c'est en fait, qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est laid? Alors, Kant a dit du beau qu'il est l'expression du bien. Jasper distingue, lui, la beauté du fond de celle de la forme. Le fond, l'essence de l'être. La forme, l'esthétisme, tout simplement. On pourrait voguer comme ça d'une définition à l'autre. Cela dit, la définition psychiatrique du beau nous amène sur un terrain peut-être un peu moins métaphysique. Ce qui est beau, c'est ce qui nous procure du bonheur, tout simplement. Au quotidien, la beauté du fond comme de la forme nous procure de la joie. Dans nos groupes d'amis, dans nos fréquentations, on peut choisir de s'entourer de belles personnes, c'est-à-dire de gens dont le fond nous apporte du bonheur. Le simple citoyen peut donc avoir un impact direct, il me semble, à ce niveau. Il y a une notion de choix. Et en ce sens, les différentes perspectives sur le beau, qui demeurent subjectives, risquent moins de s'affronter les unes aux autres. En ce qui a trait à l'espace public, la donne est différente. Bien différente. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui peut être considéré comme beau, comme valable? Dans l'art, dans l'architecture, dans l'urbanisme, est-ce le choix d'experts, d'esthètes, qui sont capables de prendre état des tendances, de l'histoire, du classique, d'où l'on vient, où s'en va-t-on? Ou est-ce la décision de la majorité qui peut déterminer sans heurts ce qui est beau ou laid dans l'espace public? Tout ça peut paraître d'emblée comme un délire intellectuel, mais il reste que j'ai l'impression que la question se pose et se repose sans cesse, notamment dans la capitale, et sûrement ailleurs. La question du beau, elle a été soulevée dans le dossier de la présence publicitaire à Québec. Devrait-on réglementer la place qu'occupe la publicité dans l'espace public? Devrait-on s'assurer que la publicité est belle? Mais en même temps, qu'est-ce qu'une belle publicité? Et le complexe G, et ces bulles qu'on voulait construire sur du frais Montmorency?
C'est annulé.
Et tel ou tel autre projet? Hein?
Il dit qu'on voulait construire.
Oui, c'est annulé.
Ah non.
La liste est longue. Très longue, et au fil des mois, nombreux sont ceux qui s'improvisent experts sur la question. Aujourd'hui, cette question nous amène à l'église Saint-Vincent-de-Paul et à l'hôtel Boréal. Est-ce que le projet qui nous est proposé est beau ou non? Certains nous assurent qu'il est à la fine pointe de l'esthétisme. Au point de vue architectural, je pense qu'ils ont compris le signal qu'on a donné. Architecture plus éclatée, plus intéressante, il a livré là-dessus. Par rapport au premier projet, c'est le jour et la nuit. Je le trouve très intéressant là, c'est un milieu stratégique. Le rappel d'un temple, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est bien fait, disait le maire de Québec, Régis Labeaume, au soleil.
Attends, le rappel d'un temple, c'est-tu le petit côté scintillant?
Oui, je pense que oui. D'autres, comme l'architecte et conseillère municipale Anne Guérette, estiment le contraire. On a arrondi les coins, on a mis du bleu et du vert dans les fenêtres. Les architectes se sont remis sur ce dossier il y a 3 semaines. Tu fais pas un projet de cette ampleur-là en 3 semaines. On passe à côté d'une occasion d'intégrer ce projet dans son environnement. À la place, on le catapulte. On ne commencera pas à s'ostiner sur la beauté des affaires. C'est beau lorsque ça s'intègre dans son contexte urbain, historique et social. Alors, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est laid? Comment trancher sur la question de l'esthétisme? Et peut-être surtout, à qui de trancher? La question se pose. Mais dans le moment présent, dans la situation actuelle, est-ce la bonne question? Est-ce le bon point sur lequel s'attarder? Devrait-on plutôt se demander, à l'instar du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, pourquoi a-t-on mis de côté les consultations publiques qui sont en cours actuellement via le plan particulier d'urbanisme? Pourquoi faire une exception avec le dossier de l'hôtel Boréal alors que l'on se questionne sur l'avenir urbain de l'ensemble du secteur? Surtout qu'une première exception peut en attirer d'autres. Alors, voilà, on peut se poser la question, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est laid? Personnellement, je trouve ça atrocement laid.
Ouais, mais on est foutu là, si on enlève le laid de l'espace public, parce qu'on n'aurait plus de politiciens. Ça va être fini.
Personnellement, je trouve ça très laid, mais effectivement, c'est peut-être pas le bon angle d'attaque. Et pour l'instant, enfin, les groupes populaires, ça sur quoi ils s'entendent, c'est que ça prend des consultations publiques. Cette affaire-là, c'est un maudit gros terrain qui est à un endroit stratégique, puis c'est pas vrai que parce qu'il y a un propriétaire dessus, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et là, la ville en est rendue, après avoir menacé là, d'exproprier pendant la campagne électorale, aujourd'hui on négocie avec le propriétaire une fin honorable pour toutes les parties. Alors, sur le site du garage à Jojo, il va peut-être y avoir des condos. Sur le site du Patro, il va y avoir un hôtel giga avec 600 places de stationnement. Ça va être vraiment monstrueux. Et là, on essaie de dealer ça. Puis on dit, le maire dit, OK, il va avoir un hôtel là, mais tous les autres sites, ça va être du résidentiel. Sauf
lesquels?
Que, ben, il y en a quand même 16 en Haute-Ville, semble-t-il.
Ouais, ouais.
Mais il reste que on veut quand même passer à côté des consultations publiques, comme toujours. Alors voilà, pour l'instant, la position du Comité populaire, c'est qu'il faut absolument avoir des consultations publiques, d'une part. D'autre part, les besoins, c'est pas de l'hôtellerie, c'est du logement. Et finalement, si vous nous ajoutez 600 places de stationnement au centre-ville, ça risque de créer de légers problèmes.
Mais non, voyons, mais non. Les touristes qui vont aller à l'hôtel, ils roulent pas en même temps que les autres.
Non, ils roulent pas à la même hauteur. Ceci dit, parlant des besoins, puisque j'ai le temps, il y a la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui vient de sortir son rapport sur le marché locatif dans la région métropolitaine de recensement de Québec. Il y a le Frappru qui est sorti là-dessus et qui dit que ce sont les familles à faible et modeste revenu qui sont les principales victimes de la pénurie. Alors, il y a deux endroits à Québec. Bon, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 10 ans qu'on est en crise et on l'est encore en ce moment. Le taux d'inoccupation générale de la région de Québec est de 0,6%. Alors, et ça s'est empiré dans les logements familiaux, qui sont de plus en plus rares. Dans la région métropolitaine de Québec, le taux d'inoccupation, c'est-à-dire combien qu'il y en a là, qui sont disponibles pour des gens qui en auraient besoin maintenant, donc des logements de 3 chambres à coucher et plus, est passé de 0,5% à l'automne 2008 à 0,1% à l'automne 2009. Et c'est la même chose dans plusieurs autres centres urbains du Québec. Et ça s'est traduit aussi par des hausses de loyers très importantes. Par exemple... On a augmenté dans la région métropolitaine de Québec, dans les logements de 3 chambres à coucher et plus, ça a augmenté de 32,7% entre 2000 et 2009 dans notre belle région. On est rendu dans une situation où... ben c'est justement, je voulais amener ça pour parler du centre-ville puis du développement. Là, on parle de faire du locatif. Là. On parle de faire, en fait, pas du locatif, de l'habitation. Okay, on veut faire des condos, probablement sur le site du garage à Jojo. Le maire dit qu'il faut ramener des gens au centre-ville. Puis il y avait un militant du comité populaire qui nous disait ouais mais il faut pas ramener n'importe qui n'importe comment parce que les condos c'est stérile. C'est-à-dire que les condos coûtent tellement cher au centre-ville qu'il y a pas une jeune famille qui va acheter un condo au centre-ville.
Et non, ouais.
Et de fait, en Haute-Ville de Québec, les loyers sont en moyenne de 30% plus élevés que dans le reste de la région de Québec, semble-t-il. Et en fait, et même on pourrait aller plus loin en étendant plus loin la chose, parce que tu vois, les loyers varient en fait selon les zones de marché. OK? Il y a deux zones de marché des loyers qui sont nettement supérieures à la moyenne de la région métropolitaine. Il y a la Haute-Ville, plus 30%, et il y a Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, plus 16%. Mais sauf que si on y pense comme il faut, Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, c'est la prolongation de la Haute-Ville. Donc, ça veut dire que c'est la moitié de la ville, finalement, qui est pas accessible. Il faut aller, en fait, en basse-ville, à Beauport, à Lévis ou à Charny, pour trouver des logements en bas du prix moyen. À Charny, oui, 7% de moins élevé que dans le reste.
C'est très accessible.
C'est très accessible pour les classes populaires.
Ah ça. Oui.
Lévis aussi, d'ailleurs, à moins 8%. Mais déjà, Beauport, Basseville. Basseville sont déjà comme pas mal là. Fait que ça, c'est une chose à considérer. Je veux dire, si on veut ramener du monde au centre-ville, ben, il va falloir faire des logements abordables. Et du logement locatif, il s'en fait très peu. Et on a des besoins immenses. Et si on veut garder des enfants, si on veut garder des quartiers vivants au centre-ville... Arrêter de fermer des écoles et tout, il va falloir absolument ramener des coopératives d'habitation. Et, on va terminer là-dessus, au cas où qu'il y aurait peur de ça, les coopératives d'habitation, à cause de la volonté gouvernementale, c'est de la mixité sociale.
Et voilà.
Il y en a la moitié des logements dans les coopératives qui sont pas subventionnés et qui donc se détaillent à des prix de l'ordre de 700-800$ pour des grands logements. Bon, c'est sûr que c'est pas le 1000 quelques.
Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'objectif de
rentabilité.
Pas d'objectif de profit. Il faut que ce soit rentable, parce qu'il faut pas que tu fasses de trous, mais t'as pas besoin de. T'as pas un bonhomme au-dessus des 24 logements qui dit.
Qui vit juste
de
ça.
Ouais, c'est ça. Moi, je vis de votre vie.
Ben, c'est ça. Puis pour terminer, ben, si vous habitez en Haute-Ville, puis c'est le genre de choses qui vous intéressent, les coopératives d'habitation, bon, c'est sûr que le comité populaire, Anne Guirette et compagnie, tout le monde va continuer de se débattre là, sur la question du patron. Probablement qu'il se fera pas de coop là, sur le site du patron dans l'immédiat. Quoique, il est pas dit que son hôtel va pas se planter, parce que ça fait 20 ans qu'on annonce des projets sur ce site-là. C'est jamais rien fait. Pendant 20 ans, on a annoncé des projets d'hôtels, des projets pas d'allure sur le site de l'Hôtel-Bertelot, aujourd'hui c'est des coop, donc faut pas perdre espoir à ce niveau-là. Mais dans un avenir rapproché, il y a quand même des batailles qui s'engagent sur toute une série de sites en Haute-Ville, puis ben c'est ça. Il y a le comité populaire Saint-Jean-Baptiste qui vient de mettre sur pied un comité de requérants et de requérantes de logement social. Donc le but, c'est de regrouper des locataires qui ont besoin de place en coopérative d'habitation, qui voudraient mettre la main à la pâte et qui voudraient construire des coopératives finalement en Haute-Ville. On se contera pas d'histoire, c'est pas des affaires qui se font en 6 mois. Mais ça vaut la peine de s'engager dans les batailles. Ça peut donner des résultats comme on l'a vu avec la coopérative L'Escalier à L'Île-aux-Bertelot. Donc les gens qui sont intéressés, toutes les personnes en fait, hein, peu importe leur âge, leur sexe, leur situation matrimoniale, qu'ils soient des jeunes, des vieux, des étudiants, des mères de famille, n'importe quoi. Tout le monde qui est intéressé peut s'inscrire en appelant au 418-522-0454. Il va y avoir une session d'information en janvier. Puis le but, ben, c'est ça, c'est de former là, les noyaux durs des groupes qui vont se battre pour avoir des coops et qui vont les habiter ensuite.
Yeah! Wouhou! Alors, on va continuer en musique.
Oui, et on va revenir avec l'international et les plugs.
Ouais, on va y aller avec Jeunesse apatride, avec la pièce Jeunesse apatride.
De retour à votre fait pour un dernier bloc sur les ondes de CKIA 88.3. Mais d'abord, catégorie insolite. Sur mon Facebook aujourd'hui, il y a une de mes amies américaine qui m'a ramené une bizarrerie. Alors, il y a un conseiller municipal de Asheville City, proche de Raleigh, en Caroline du Nord, qui s'appelle Cecil Botwell. Monsieur, il croit à l'abolition de la peine de mort, à conserver l'eau, à réformer le gouvernement, mais il croit pas en Dieu. Et il y a des de ses commettants qui disent que ça le rend pas digne d'être un élu finalement. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'ils ont la constitution de la Caroline du Nord de leur côté. Alors les détracteurs de Botwell, qui selon lui ne sont qu'en fait que des opposants locaux qui cherchent une excuse là pour se débarrasser de lui, parce que disons-le là, c'est un gars quand même assez à gauche qui veut limiter la hauteur des bâtisses au centre-ville.
Un maudit communiste.
Ouais, c'est ça. C'est un démocrate, mais
communiste.
C'est ça. Il s'est présenté comme indépendant. Il ressort une loi en fait, dans la constitution de l'État de Caroline du Nord, ça dit que tu peux pas être parlementaire, être élu finalement, si tu ne crois pas à Dieu Tout-Puissant. Alors ça, c'est une loi qui date de 1868 et Donc, en fait, n'importe qui peut être là, sauf un athée, finalement.
Il se coupe la meilleure partie de la population.
Ouais. Et c'est dans la Constitution, et puis bon, c'est depuis 1868, et en 1971, quand ils ont réformé la Constitution, ils n'ont pas enlevé ça de là, ils n'ont pas pensé. Puis, et puis là, ben là, il y a comme une espèce de bataille juridique, parce que c'est un peu paradoxal, parce que la Cour suprême des États-Unis a dit que ce type de loi-là était inconstitutionnel.
Oui,
que tu ne pouvais pas.
En fait, c'est contre la Constitution aller de l'avant. Des États-Unis.
Des États-Unis, tu ne peux pas aller de l'avant avec ces affaires-là. Et en 1961, ils se sont penchés sur la question. Sauf que les législateurs... en fait, quand il y a quelqu'un qui te poursuit pour ce genre de truc-là, puis là, il y a des gens qui menacent de poursuivre la ville parce qu'ils l'ont assermenté, puis qu'ils n'auraient pas dû l'assermenter vu qu'il était athée, puis que c'était de notoriété publique. ils disent, ben, c'est dans la loi. Et puis, le devoir de l'État, finalement, c'est de faire respecter la loi. Puis là, il y a des gens qui disent, ouais, mais il y a plein de lois stupides dans l'État de Caroline du Nord, comme dans tous les États des États-Unis.
Oui, il y a des lois périmées, là.
Et c'est ça, ce qu'ils disent, c'est que on fait pas de révision systématique des lois parce que ce serait trop long et trop stupide. Mais dans ces cas-là, il semble que ça peut durer longtemps. Il y a des gens qui sont allés en cours vraiment longtemps pour pouvoir avoir droit à des charges publiques parce qu'il y a certaines charges publiques qui sont interdites aux athées. Donc, c'est quand même assez paradoxal. En 2009, aux États-Unis, si tu crois pas en Dieu, tu peux pas... Je savais que c'était un problème. Si tu croyais pas en Dieu, tu pouvais avoir de la misère à être élu. Tu pouvais ne pas avoir... Mais même, ils pourraient éventuellement les retirer.
Peut-être que les croyants, ils ont peur que ce soit que les sept plaies d'Égypte viennent dans leur coin.
Je sais pas. Mais il semble qu'il y ait six autres États. Donc, il y a la Caroline du Nord et six autres États qui ont ce type de loi-là, à savoir l'Arkansas, le Maryland, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Tennessee et le Texas, qui en fait interdisent finalement à ce que des athées puissent siéger dans leurs états. C'était ma nouvelle installée de la semaine par rapport aux États-Unis. Je sais que la semaine dernière, Eugénie, tu nous avais amené quelqu'un qui voulait interdire les divorces. Alors, voilà.
Donc, augmenter la criminalité.
Moi, j'avais compris qu'interdire les divorces, c'était une blague, là. C'était parce que...
Non, c'est vraiment pas une joke, là.
Ah ouais, moi, je comprenais que c'était une blague. Je pensais qu'ils faisaient ça parce que, pour ridiculiser les chrétiens qui voulaient défendre le mariage en se battant contre le mariage gay. Mais bon, en tout cas, c'est pas une blague. C'est encore plus pathétique. Au niveau international, très rapidement, j'aurais aimé vous parler du sommet du climat de Copenhague. Ça brasse beaucoup, mais je vais vous laisser faire vos recherches vous-même. Il y a plein de sites militants là-dessus. Je voudrais juste souligner dans la longue liste des petites répressions qui se passent, petites et grandes répressions qui se passent un peu partout. Alors, la FAU, ça, c'est la Free Arbiter Union. C'est en fait le syndicat libre des travailleurs. C'est une organisation anarcho-syndicaliste allemande qui existe depuis très très longtemps. Depuis le début du siècle. Et donc, eux autres, c'est des anarchistes
du 20e.
Oui, du 20e. qui font du syndicalisme alternatif, sont impliqués dans des batailles à Berlin et tout. Et là, ils viennent dans un contexte un peu particulier, là, ils sont dans une lutte avec du monde contre un cinéma de gauche qui est soutenu par une municipalité et tout, à Berlin. Et là, ils ont un gros syndicat, le vrai syndicat, finalement, de ce secteur-là, qui en fait a demandé, qui utilisait des dispositions de la loi allemande, et qui a eu une injonction contre le syndicat, et maintenant le syndicat n'a plus le droit d'utiliser le mot syndicat.
Ils ont dit,
vous n'êtes pas un vrai syndicat, donc vous n'avez pas le droit de vous appeler de syndicat. Et si vous dites que vous êtes un syndicat et que vous pouvez défendre les travailleurs, vous allez avoir 250 000 euros d'amende. À toute fin pratique, c'est une interdiction de la FAU à Berlin.
Ben oui.
Et c'est la première fois depuis 1933 qu'on interdit un syndicat en Allemagne.
Les bonnes vieilles habitudes qui reviennent.
C'est ça. Donc, c'est un dossier à suivre. Moi, j'ai trouvé ça sur Anarchismo. Donc, c'est un peu partout sur les sites libertaires. Probablement qu'il va y avoir des campagnes de solidarité. On en reparlera sur notre blog. Et juste avant de terminer, j'aurai une plug ce vendredi 18 décembre à La Page Noire. La Page Noire fait un 5 à 7 mensuel pour renflouer ses coffres et permettre à tout le monde permettre à tout le monde aussi de socialiser et tout. Ouais. Et cette semaine, il va y avoir le lancement du livre Maurice Demers, œuvre d'art totale, en présence de l'auteur Annie de Carvalho, dans le cadre du 5 à 7 du mois de décembre. C'est vendredi à La Page Noire, au 265 Dorchester. On nous demande de noter que des breuvages et des petites bouchées seront disponibles pour assouvir vos besoins les plus urgents. Alors c'est un livre d'art en fait, hein, essentiellement. Entre 1960 et 1970, le monde de l'art délaisse massivement les galeries et les musées pour envahir avec enthousiasme et candeur les espaces publics. On explore en ces lieux des nouvelles formes d'expression artistique, la création collective, l'improvisation, les installations, etc., etc., etc. Vous, en fait, bon, je vais arrêter là. Vous pourrez en savoir plus si vous achetez le livre, si vous allez là. C'est une belle occasion de visiter la page noire avant qu'elle ferme pendant les fêtes. Je me souviens plus, c'est de quelle date à quelle date c'est fermé.
Peut-être un deux semaines, je sais.
Ouais, quelque chose comme ça. Mais on nous dit qu'il y a probablement tout ce que vous avez besoin pour vos cadeaux de Noël ou pour lire pendant le temps des fêtes. Alors, il faut toujours soutenir notre infoshop local. On s'en souvient pas, mais nous, on a de la misère à réaliser, mais c'est important, ce type d'institution-là. Alors, voilà, c'est ce qui va mettre fin à cette édition de Voix de Fête. C'était Nicolas avec...
Jenny.
Et Farouk, qui vous dit, on finit avec Minnie the Moocher, faite par Big Bad Voodoo Daddy.
Hidey, 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 hide.
Hidey, 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 hide.
Whoa,
whoa,
whoa, whoa. Hoodie, hoodie, hoo.
Hoodie, hoodie, hoo.
Hidey, hidey, hide.
Hidey, hidey, hide.
Now she had a dream about a king from Sweden. He gave her things that she was needing. Now we built a home of gold and steel and a diamond car with platinum wheels.
Ooh-ree, 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 ooh-ree.